Inter.
La différence. 15h04 sur France Inter. Bon après-midi. Vous retrouvez Daniel Mermet. C'est là-bas si j'y suis.
Oh, salut Daniel. Je suis en train d'écouter l'émission sur le charmant petit village suisse. Et là, une véritable parodie. Je ne sais pas où vous les avez trouvés. Ils sont gratinés quand même. On a des gens qu'on a envie d'avoir très près de chez soi pour être en sécurité. Ah, il y a tout, hein, l'abri anti-atomique, le petit bar en bois. On imagine le coucou suisse et le drapeau de l'UDC. Ah, le cauchemar. Le cauchemar. Enfin, merci, c'est un grand moment de fou rire quand même. C'était Frédéric à Amiens.
Salut Daniel, mais il fallait me dire que tu viens en Suisse. Moi, je l'aurais accueillie, Charlotte Perry. Elle m'aurait accompagnée au consulat, on aurait voté rouge et vert. On serait allé voir le film documentaire Vol spécial sur le centre de détention des sans-papiers près de Genève. Elle serait venue avec nous hier à Fessenheim. On aurait célébré l'amitié franco-allemande suisse autour de la lutte pour l'arrêt de la centrale. Comme quoi, on peut être heureux aussi comme ça en Suisse. Et d'ailleurs, tu ne croiras pas, Daniel, mais il y a plein de gens qui fument à la gare et ils jettent leurs mégots par terre, c'est dégueulasse. Allez, à plus, je vous aime. Ciao.
Bonjour, Daniel et les AMG. Pour faire un petit complément à ton reportage sur la Suisse là, de vendredi dernier, cette info parue dans le journal Ouest-France du mercredi 25 avril est titrée « Genève, les Français indésirables ». Et qui nous explique que 95 000 habitants de l'Ain et de la Haute-Savoie vont travailler à Genève chaque jour. Un tiers d'ailleurs seraient des Suisses résidents en France pour cause de prix des loyers. Et à Genève, il y a un parti politique, le Mouvement Citoyen Genevois, qui dénonce cette migration quotidienne. Et dans les tracts et discussions sur place, on entend parler de préférence nationale, d'arrogance, de pollution des Français, et même d'éliminer la racaille. Pour peu, on se croirait en France.
Bravo ton émission sur la Suisse. Et à chaque fois que j'entends des gens dire du bien de la Suisse, ça me fait penser à une réplique dans ce film qui est Le Troisième Homme, ce film extraordinaire, où il y a Orson Welles qui dit à propos de la Suisse, regardez l'Italie, ils ont eu les Borgia, ils ont eu la mafia, ils ont eu le fascisme. Et ça a donné quoi? Ça a donné Michel-Ange, Léonard de Vinci. Et pendant ce temps-là, en Suisse, ils ont eu 500 ans de démocratie. Pour donner quoi? Le coucou. C'est bien résumé, non? Allez, salut, bonne journée.
Oui, moi ce que j'aimerais bien, c'est que les journalistes rappellent aux candidats de la droite, quand ils se présentent, de l'UMP en particulier, que le 1er mai, c'est le jour des ouvriers, c'est le symbole du combat des ouvriers et des syndicats. Ça n'a jamais été un mouvement, un jour qui a été donné ou qui a été revendiqué par les partis politiques. Le seul gouvernement qui a fait chômer le 1er mai, c'est le gouvernement de Pétain, pour essayer de se rapprocher des ouvriers. Donc voilà, ce serait sympa que ça soit rappelé un petit peu de temps en temps. Allez, Canao.
Bonjour Daniel, bonjour les auditrices et puis aussi les auditeurs. Ici la compagnie Jolimôme. Alors, la compagnie Jolimôme ne vous souhaite pas une bonne fête du travail. Pas plus qu'une bonne fête des travailleurs. La compagnie Jolimôme vous souhaite à tous une belle journée internationale de lutte des travailleurs. Alors ce 1er mai, nous serons avec les Lorrains à Mont-Saint-Martin. Ensuite, à la veille du deuxième tour, nous chanterons à Saint-Denis dans notre théâtre, La Belle Étoile. Vendredi et samedi soir, nous jouerons Paroles de Mutin, nos chansons de lutte, d'histoire et d'espoir. Parce que c'est surtout autour de cela que nous avons envie de nous retrouver dans les temps à venir. Les luttes, la fraternité, le rire et l'espoir. Alors à très bientôt. Et toutes les informations pour nous retrouver sont sur notre site internet ou bien au 01 49 98 39 20.
Merci pour tous ces messages, chers AMG, Udo Zulu, pour tous nos amis suisses suite à l'émission de vendredi. Mais bien sûr qu'il y a des tas de gens adorables et formidables en Suisse et que la Suisse est un pays tout à fait sympathique. Mais voilà, c'était un portrait d'un couple de Français vivant en Suisse. Ça se limite à ça, notre démonstration, du moins notre émission de vendredi dernier. Merci à tous, en tout cas. Alors aujourd'hui, La victime, quoi de plus important ? La victime dans nos sociétés, dans nos conversations, dans ce qui nous convainc le plus et le plus puissamment que le récit de la victime. Voilà qui nous émeut, voilà qui nous étreint, voilà qui nous met en colère, qui nous effondre. Et tout commence par le témoignage de la victime. Je dis en général, en toute situation, en toute circonstance, et même peut-être dans notre histoire. Allez savoir, celui qui est depuis plus de 2000 ans sur une croix, cloué, une victime, non ? Et celui dont on ne sait toujours pas le nom, ce soldat inconnu au-dessus duquel on ranime la flamme, une victime aussi. Importance de la victime dans la civilisation, dans la politique, dans la vie. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la victime dans le fait divers, à la victime par rapport à la justice, à l'effet produit par le récit de la victime sur notre sens de la justice. Un institut de la justice, fait grand bruit, institut pour la justice, pardon, fait grand bruit ces derniers temps. C'est un institut dynamique qui, au nom de la victime, réclame plus de sévérité, plus de peine, plus de prison, plus de sécurité. Et ça émeut, et ça intrigue, et ça irrite, et ça met en colère pas mal de monde, et pas mal de monde évidemment du côté de la justice elle-même. En fait, ce dont on va parler d'ici à 16h dans la Basse Si J'y Suis, c'est deux conceptions du monde, l'une basée sur la nature et l'autre sur la culture, l'une sur le talion et l'autre sur la justice. Et puis une réflexion aussi sur la justice. N'oublions jamais que la justice est prononcée au nom du peuple français, ni au nom de la victime, ni au nom du coupable. C'est très important. Il m'est arrivé, je vais essayer de vous raconter quelque chose brièvement, d'être juré d'assises. Oui, j'ai été juré d'assises. Et vous arrivez le matin, tous ceux qui risquent d'être jurés pour le procès du jour sont là, et éventuellement, ils participeront à l'audience, ils donneront leur point de vue. Et un matin, j'étais là, je n'ai pas été pris ce jour-là, j'avais été pris la veille, j'avais participé la veille, et ce jour-là, non. Mais c'était une histoire terrible. Il y avait dans le box un homme, c'était un patron. Il avait une tête de patron, alors vraiment, avec ses menottes, il était le patron odieux, le patron arrogant, le patron sûr de lui. Et qu'est-ce qu'il avait fait ? Il avait violé une de ses employées. Et elle était là, elle était quelques rangées devant moi, et une petite femme, une jeune femme blonde, les épaules secouées de larmes, accompagnée de sa famille. C'était bouleversant, c'était évidemment, le salaud était là-bas, et la victime était devant nous. Pas besoin de procès, pas besoin de jugement, hein, à quoi allait bien pouvoir servir ce tribunal et les experts qui allaient se succéder, et les témoins qui allaient se succéder, et les policiers qui allaient venir témoigner, etc. Je suis resté dans la salle, et 2 heures après, 3 heures après, la jeune femme m'a dit qu'elle avait tout inventé. La victime a dit qu'elle avait tout inventé. Il y avait une histoire entre le patron et elle, qui était d'ailleurs un type assez peu sympathique, colérique, mais en tous les cas, il n'avait absolument pas violé cette jeune femme. Ces retournements dans ma propre conviction, dans mon intime conviction, m'a donné envie de demander à Yves Anctil de travailler sur l'émission d'aujourd'hui. C'est un reportage de Yves Anctil. La victime, la règle et l'émotion, il ne manquerait plus qu'ils s'en sortent. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Le groupe Semences en Limousin se bat pour la mise en place d'une nouvelle loi qui reconnaissent les droits des agriculteurs à ressemer et échanger librement leurs semences, car la reproduction du vivant est un acte gratuit que l'on ne peut remettre en question. Hélène, Michel, Paul viendront vous en parler au repère de Limoges le mercredi 2 mai à 18h30 au bar Les Folies, place des Jacobins. Chacun est concerné. Salut.
Salut Daniel, salut les auditeurs de là-bas. Si j'y suis, j'appelle car nous allons mourir. Nous, c'est le Calme de Cabris, centre d'aide et de libération des malades éthyliques. Nous, c'est 30 travailleurs de la seule clinique coopérative de France. Nous, c'est 17 000 personnes qui sont venues se faire soigner de leurs problèmes d'alcool et d'addiction et tenter de se libérer. Nous, c'est une thérapie institutionnelle reconnue par la Haute Autorité de Santé. Nous, c'est une tarification de 3 864 euros pour 29 jours, là où un service hospitalier perçoit 14 000 euros. Tout cela parce que l'Agence régionale de santé nous classe dans une catégorie qui ne reconnaît pas notre spécificité. Nous ne voulons pas que tout s'arrête cette année. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez passer voir le site de l'association de soutien www.ascalmecabris.com. Merci à tous, et si toi Daniel, tu veux voir ce que c'est qu'une clinique privée où chaque travailleur égale une voix et où il n'y a pas d'actionnaire à enrichir, tu es le bienvenu.
Bonjour, là-bas si j'y suis. Merci de vos appels de soutien depuis mon message concernant l'expulsion de la ferme de Saumonté en Andalousie. Je ne manque pas de faire part de vos appels lors de nos assemblées quotidiennes. Il y a du nouveau depuis l'expulsion. Nous avons décidé d'attendre minuit 30 pour changer de jour et nous sommes remontés occuper la ferme. Plus de 100 personnes se sont mobilisées et nous voici à nouveau à pied d'œuvre pour continuer le projet de culture. C'est la joie vraie et simple de nous retrouver et d'avoir à nouveau l'espoir de continuer cette utopie, arriver à changer un système de gestion qui utilise les personnes pour son propre bénéfice au lieu de se mettre à leur service. Le prochain rendez-vous, c'est le 1er mai, avec l'organisation d'une grande fête dans le domaine de Saumonté. Merci à tous et à bientôt, Florence de Saumonté.
Madame, Monsieur, attention, le message qui va suivre peut choquer les personnes sensibles. Mon nom est Laurence Avel et je suis secrétaire nationale de l'Institut pour la Justice, la plus grande association d'experts, de victimes et de citoyens qui traite des problèmes de justice en France. Aujourd'hui, nous sommes en train d'organiser une mobilisation nationale suite au meurtre de Laetitia Perret à Nantes. Car ainsi que vous le savez certainement, Tony Meillon, le principal suspect, était un criminel violent multirécidiviste qui avait déjà été condamné 15 fois par la justice. Mais il y a une certitude. Dans une semaine, un mois, trois mois au plus tard, un autre crime, comme celui commis contre Laetitia, fera la une des journaux. C'est un fait. Un autre monstre, peut-être plus dangereux encore que Tony Meillon, sera libéré par la justice française et assassinera une nouvelle personne. C'est inéluctable.
Ce que fait l'Institut pour la justice, c'est une sorte de storytelling dramatique.
Il est temps de dire la vérité. Nos lois doivent prévoir des peines beaucoup plus sévères et neutraliser plus longtemps des individus aussi dangereux. Et je compte sur vous pour le dire à nos gouvernants en signant la pétition ci-dessous.
Salut, c'est Daniel Mermet, et là-bas si j'y suis avec Guy Vanctil, la victime, la règle et l'émotion. Il manquerait plus qu'il s'en sorte. Flight number 2, arriving
from New York. Madame, Monsieur, je m'appelle Joël Sancier, j'ai 52 ans et 30 ans de police derrière moi. En vous envoyant cette vidéo, j'ai conscience de commettre un acte grave, mais c'est une question de conscience. Un de mes enfants, Jérémy, a été tué par un groupe de jeunes alors qu'il rentrait à la maison. Ces jeunes, pour certains, bien connus des services de police, se sont déchaînés sur Jérémy, simplement parce qu'il était fils de flic. À 10 contre 1, ils l'ont tué avec une barbarie inimaginable selon les témoins et les médecins légistes. Mais le 16 septembre dernier, c'est-à-dire il y a un mois, la justice a décidé de relâcher pour vice de forme le dernier qu'elle détenait encore. Cet individu est pourtant le danger public qui a avoué être l'auteur de multiples coups de couteau sur notre fils. Un coup qui a traversé son cœur, un coup qui a traversé sa boîte crânienne et d'autres qui l'ont défiguré. Mais la justice l'a libéré pour vice de forme. Quelle vice de forme ? Il a donc été immédiatement libéré. C'est pourquoi je vous demande de cliquer sur le bouton ci-dessous pour signer votre pacte 2012. De notre côté, nous mobilisons d'importants moyens humains et financiers pour rassembler des dizaines, des centaines de milliers de signatures, préparer des dossiers précis justifiant le coût et la faisabilité de chacune de nos réformes avec des avocats et des juristes spécialisés, mobiliser la presse pour que cette action soit médiatisée le plus largement possible, organiser des rencontres officielles avec chaque candidat pour obtenir leur engagement à mettre en œuvre nos réformes en cas d'élection. Au nom de mon enfant, de ma famille et de mon pays, je vous dis merci.
Vous cherchez le bouton. Vous cherchez le bouton. Vous voulez absolument signer. Vous êtes bouleversé. Cet homme est bouleversant. Son témoignage est bouleversant. C'est l'émotion. Et bien sûr, et tous, nous éprouvons un sentiment profond d'empathie pour ce père qui fait ce récit. C'est ainsi, c'est la puissance extraordinaire de l'émotion. Antonin Artaud parlait de l'indécrottable cheptel des profiteurs d'abîme. Cette émotion, cette empathie nous amène à l'abîme où se trouve ce père, l'indécrottable cheptel des profiteurs d'abîme. Tout ce qui repose sur l'émotion est exploitable et bien souvent exploité. Détournement de cadavres lancé un jour dans une émission à l'ami Daniel Ben Saïd. C'est une vieille histoire, c'est une vieille coutume que les démagogues connaissent bien. Ils sont experts, ils ont le sens de ça. Ils flairent l'émotion dans un art de la monter, de l'augmenter, de la multiplier en masse pour arriver à orienter, à faire croire, à faire marcher, à faire adhérer. Une très très vieille histoire, très très vieille histoire, et qui dont nous ne sommes pas évidemment affranchis. Mais des hommes et des femmes, depuis la nuit des temps, essayent de nous affranchir de cette émotion sans songer à nous en débarrasser jamais. C'est la raison. C'est, pour notre époque récente, c'est les Lumières. Et la justice dans notre pays est issue de ces idées qui mettent là l'émotion à distance. C'est une longue lutte, jamais tout à fait gagnée. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Entre cet institut pour la justice qui fait tout reposer avec un grand succès et un mouvement dynamique, cette institution est très dynamique, fait tout reposer sur l'émotion, sur la victime, et ceux dont le métier, dont le travail permanent, et puis nous tous aussi avec notre simple bon sens, nos propres expériences, avons à combattre et à mettre à distance. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis, la victime, la règle, l'émotion.
T'as vu les infos? C'est pas vrai, c'est dingue, j'y crois pas. Arrête. Non, tu déconnes.
J'y crois pas.
C'est pas possible. Tu rigoles?
Putain.
Je vois pas qui c'est.
C'est pas possible.
Tu me l'apprends, mais je suis pas surpris. J'en étais sûr. J'y crois pas.
J'y crois pas.
C'est horrible, hein? Attends, y'a encore plus drôle. Comme quoi, y'a pas de fumée sans feu. Les chiens ne font pas des chats. Il manquerait plus qu'ils s'en sortent. Au village, c'est la stupéfaction.
J'y crois pas.
Ils n'auraient jamais dû revenir. On voudrait juste comprendre.
Comprendre.
Je t'ai pas reconnu. Maintenant, il doit payer. On n'a rien vu venir. On n'a rien vu venir.
J'en étais sûr.
On n'a rien vu venir.
Je crois pas.
Tout se joue à l'école. Moi, je me suis toujours méfié. Y'a pas assez de contrôle.
Tout ce monde dehors.
C'est pas la première fois dans la famille.
Tu rigoles.
Les camarades partirent,
les juges bouffent à tous les râteliers.
Je suis comme un héros.
T'es comme les autres. Maintenant, elle doit payer.
Il était comme les autres.
On n'a rien vu venir.
On n'a rien vu venir.
C'est pas vrai. Tu crois pas.
On n'a rien vu venir.
On n'a rien vu venir.
passé à bout. C'est qu'un système français. C'est une naissance, on peut rien y faire. Je suis avant, mon père est flic.
Comme le cousin,
l'autre avec sa tête de fou. Après, il y a eu un grand silence.
Cette vidéo, vous êtes plus d'un million à l'avoir visionnée depuis le début du mois de novembre. 10 minutes de phrases choc, de mots surlignés en gras et de phrases couleur rouge vif.
iTélé, 23 novembre 2011.
Un de mes enfants, Jérémy, a été tué par un groupe de jeunes alors qu'il rentrait à la maison. Ces jeunes, pour certains, bien connus des services de police, se sont déchaînés sur Jérémy, simplement parce qu'il était fils de flic. À 10 contre 1, ils l'ont tué avec une barbarie inimaginable selon les témoins et les médecins légistes.
S'il n'existe aucun doute sur la douleur de ce père de famille, certains émettent quelques réserves quant à la finalité et le but de ce message. Car sur la page qui héberge la vidéo se trouve le pacte 2012 pour la justice. Un pacte qui prône une réforme judiciaire avec à la clé des mesures concrètes comme la création de 30 000 places de prison supplémentaires ou encore la surveillance à vie des délinquants sexuels. Sur le fond, ces mesures sont jugées sécuritaires par certains observateurs. Sur la forme, utiliser l'émotion suscitée par Joël Sancier afin de faire passer des idées politiques en a fait bondir plus d'un.
Xavier Bébin, bonjour. Vous nous recevez à l'Institut pour la Justice dont vous êtes le délégué général. Mais j'ai, avant de commencer cet entretien, une petite question liminaire qui m'est imposée par la direction. Assurez-moi, s'il vous plaît, monsieur Bébin, que vous n'êtes ni candidat, ni soutien, que vous ne roulez pour aucun candidat officiellement dans cette campagne électorale.
L'Institut pour la Justice a une indépendance totale vis-à-vis de tous les partis politiques et de tous les candidats. Nos actions sont menées grâce à la générosité de 60 000 membres donateurs, des particuliers. Nous recevons aucune subvention publique. Et par conséquent, nous avons une indépendance structurelle et totale et nous avons comme seule ambition de faire avancer nos idées pour une justice plus protectrice des citoyens.
Donc des idées, mais pas politiques.
Des idées pour réformer la justice, pour qu'elle soit plus équitable, tout en sans avoir aucun lien privilégié avec tel ou tel candidat ou tel parti politique.
Très bien. Je dis ça pour être sûr qu'on soit blindé de ce côté-là. Alors expliquez-nous un peu comment est né l'Institut pour la Justice.
L'Institut pour la Justice est né d'une inquiétude, d'un fossé qui se creuse entre les préoccupations des citoyens qui demandent plus de protection de la part de leur justice, les préoccupations des victimes qui aspirent à plus de considération dans la procédure pénale, et un fossé avec un monde judiciaire et politique qui n'a pas toujours perçu et pris en compte ces aspirations populaires. Et l'objectif de l'Institut pour la Justice, c'est d'être une courroie de transmission, un relais entre les préoccupations des citoyens et des victimes, et les élus et le monde judiciaire, avec l'ambition d'avoir une expertise technique, juridique, expertale, puisqu'on a développé tout un réseau de magistrats, d'avocats, de professeurs de droit, de psychiatres, pour que on puisse porter la parole des citoyens, pour faire des propositions pragmatiques, réalistes, de convaincre nos élus, afin de faire évoluer le système.
Est-ce qu'après ces élections, vous pensez qu'il y a un nouveau son de cloche qui pourra être entendu pour les victimes dans notre société ?
Je suis convaincu que la mobilisation historique autour du pacte 2012, avec 1 700 000 personnes qui ont signé sur Internet, c'est la pétition qui a eu le plus de succès dans l'histoire des mobilisations citoyennes en France, cette mobilisation-là aura un impact au-delà des présidentielles, quel que soit le candidat élu, et que désormais, les victimes et les citoyens qui sont en attente de protection ont un relais puissant qui leur permettra de faire entendre leur voix durablement auprès des pouvoirs publics, avec une voix d'autant plus crédible qu'elle s'assoit sur des publications, des études et des réflexions d'experts.
Voilà, des réflexions d'experts, des études, quelque chose de sérieux, beaucoup de membres, dont des membres donateurs, et un porte-parole, monsieur Xavier Bébin, qui parle facilement avec cet institut. On est en face d'interlocuteurs importants, indéniablement sérieux. Voilà le point de vue de Mathieu Bonduel, qui est juge d'instruction et président du syndicat de la magistrature.
Écoutez, je suis président donc du syndicat de la magistrature, qui est historiquement le premier syndicat de magistrats, créé en juin 1968, ce qui n'est pas tout à fait un hasard. Nous sommes ancrés à gauche, au sens où Nous défendons des valeurs que nous assumons comme s'inscrivant dans la tradition historique politique de gauche, mais nous revendiquons haut et fort notre indépendance à l'égard de tous les partis politiques. La charte d'Amiens sur les syndicats nous est chère. Nous ne sommes liés directement à aucun parti.
Donc vous êtes sur la même ligne que l'IPJ, qui est elle aussi apolitique, l'Institut pour la Justice donc.
Ah non, nous justement nous ne sommes pas apolitiques, c'est-à-dire que l'Institut pour la Justice, lui, s'affirme apolitique. Déjà c'est suspect, quand quelqu'un dit qu'il est apolitique, c'est suspect d'emblée, parce que ça veut dire qu'au fond, il voudrait ne pas être classé. Bon, souvent, comme disait le philosophe Alain, quand on dit qu'on est apolitique, c'est qu'on est de droite. On peut même dire pour l'Institut pour la Justice qu'ils sont très à droite. Idéologiquement, ils se situent en gros entre l'UMP et le Front National, très proche de la droite populaire, donc la frange la plus droitière de l'UMP, et à certains écarts, on peut même repérer une filiation idéologique entre cet Institut pour la Justice et ce qu'on pourrait appeler la droite américaine. C'est un peu une sorte de Tea Party sécuritaire à la française, qui propose l'élection des procureurs, les mêmes droits pour les victimes que pour les mises en cause, alors que par définition les victimes ne sont pas accusées. Hein, donc cela n'a aucun sens, bien sûr. Donc on joue évidemment sur des sentiments, on diffuse des vidéos éprouvantes qui invitent à s'inscrire dans une démarche politique sans jamais le dire. Et on tape à bras raccourcis et à longueur de journée sur ces juges qui sont des salauds, qui sont des idéologues et qui évidemment sont du côté des assassins. Voilà en gros le fond de commerce de cet Institut pour la Justice. Ce qui moi me pose particulièrement problème, c'est qu'il avance masqué. Tantôt il se présente comme un groupe d'experts, ce qu'il n'est pas. Ce sont des militants qui ont demandé à des experts de venir soutenir leur démarche. Deuxième ambiguïté, il se présente parfois aussi comme un groupe de victimes, ou de proches de victimes, ou une association de victimes, les représentants, les meilleurs représentants des victimes dans ce pays. Ce qu'ils ne sont pas non plus. C'est-à-dire qu'il y a des associations de victimes, diverses et variées, victimes d'infractions sexuelles par exemple, ou de l'inceste, subventionnées, identifiées, qui représentent les victimes. Donc cet institut ne représente que lui-même, c'est-à-dire en fait une certaine pensée, qui est la pensée sécuritaire et répressive de base. Ça c'est bien son droit, mais au moins qu'il ne se prétende pas autre chose. Ça, ils ne le veulent pas. Ils ne le veulent pas parce qu'en réalité, ils sont dans une démarche de lobbying, c'est-à-dire d'influence. Donc, il y a aujourd'hui urgence à dévoiler ce que fait cet Institut pour la Justice et à mettre en garde les citoyens. Parce que beaucoup de gens ont vu cette vidéo, par exemple, de Joël Sancier, ce père qui a perdu son fils, et n'ont pas nécessairement vu qu'en réalité, ils étaient là face à une demande d'adhésion à des propositions politiques dans le cadre des élections de 2012. On joue sur l'émotion pour entrer dans une démarche politique sans le dire.
Madame, monsieur, je m'appelle Joël Sancier, j'ai 52 ans et 30 ans de police derrière moi. Un de mes enfants, Jérémy, a été tué par un groupe de jeunes alors qu'il rentrait à la maison. Mais le 16 septembre dernier, la justice a décidé de relâcher pour vice de forme le dernier qu'elle détenait encore. Cet individu est pourtant le danger public qui a avoué être l'auteur de multiples coups de couteau sur notre fils. Un coup qui a traversé son cœur, un coup qui a traversé sa boîte crânienne et d'autres qui l'ont défiguré. Mais la justice l'a libéré pour vice de forme. Quelle vice de forme ? C'est pourquoi je vous demande de cliquer sur le bouton ci-dessous pour signer votre pacte 2012. Au nom de mon enfant, de ma famille et de mon pays, je vous dis merci.
Alors Xavier Beuin, vous parlez des réformes que vous portiez, elles ont été compilées dans un pacte, le pacte 2012. Vous avez fait un grand ramdam, un grand raout à la Maison de la Chimie, où certains candidats que nous ne pourrons pas nommer, vu les nains du CSA, sont venus. Certains très importants les ont même signés, ont repris quelques-unes de vos mesures. Est-ce qu'on pourrait brièvement les résumer, ces 5 points globalement?
Oui, mais il y a 3 grands points. Premier point, droit des victimes, égalité des droits à tous les stades de la procédure entre les mises en cause et la victime, c'est une question d'équité et de rééquilibrage de notre procédure. La victime ne doit pas avoir plus de droits que la mise en cause, mais elle doit en avoir autant.
Mais on ne la juge pas, la victime. L'équité, c'est normalement, c'est par rapport à la loi.
L'équité, c'est qu'il y a deux personnes qui ont un intérêt profond à ce que la justice soit bien faite. Il y a le mis en cause parce qu'il risque la sanction, il risque la prison, et il y a la victime parce qu'elle a subi l'infraction dans sa chair.
Et après, il y a le reste des citoyens pour que l'ordre se règne.
Vous avez parfaitement raison. Et ensuite, il y a la société dans son ensemble qui est représentée par le parquet. Mais donc, il faut que toutes ces personnes-là aient les mêmes droits. La victime, comme le mis en cause, ont les mêmes droits à faire valoir, les mêmes droits de recours à faire valoir, le même accès au juge à faire valoir, et le parquet également, évidemment, dans son rôle de protection de la société dans son ensemble, doit aussi avoir les droits qui lui incombent. Mais le parquet ne défend pas la victime, le parquet défend la société dans son ensemble. Il faut que la victime puisse avoir ses droits à elle, parce que la décision de justice impactera sa vie entière. Elle a subi le traumatisme de l'infraction, la décision de justice impactera sa vie. Précisément parce que ça impactera profondément sa vie, il faut qu'elle puisse faire appel pour éviter la remise en liberté de son agresseur qui peut risquer de revenir chez elle, exercer des représailles. La première proposition du pacte pour la justice, c'est que les victimes aient autant de droits que les mises en cause tout au long de la procédure. Et donc qu'ils puissent faire appel d'une remise en liberté de leur agresseur, qu'elles puissent faire appel d'une décision de justice qu'elles estiment inéquitable, qu'elles puissent faire appel d'une remise en liberté conditionnelle de leur agresseur. C'est un élément central pour que les victimes aient le sentiment qu'il y ait plus d'équité dans la procédure.
Vous avez sans doute entendu la déclaration de Marine Le Pen à l'issue du premier tour des élections présidentielles, où elle s'en est prise à la gauche laxiste et libertaire. Laxiste, c'est le mot qui s'oppose à sécuritaire. Ces deux positionnements. Ces deux choses qui s'opposent, c'est-à-dire que ceux qui sont pour le sécuritaire et pour la répression, ceux que nous écoutons à l'instant, Xavier Bébin par exemple, considèrent que les autres sont des laxistes, en somme des complices du criminel. Mathieu Bonduel.
Mathieu Bonduel, si vous voulez bien, revenons un instant justement aux propositions qui ont été amenées par l'Institut pour la Justice. Ils appelaient ça le pacte 2012, qui a été signé par certains candidats. La première, c'est rétablir l'égalité des droits entre accusés et victimes.
Alors ça, c'est vraiment la plus grande des absurdités véhiculées par l'Institut pour la Justice. Par définition, celui qui est accusé, eh bien, doit être protégé parce qu'on l'accuse. C'est pas pour lui faire une fleur, c'est pas pour valoriser moralement ce qu'il a peut-être fait. On verra s'il l'a fait. Et s'il l'a fait, il sera condamné. C'est pour le protéger contre d'éventuels abus. C'est pour éviter ce qu'on appelle l'erreur judiciaire, c'est-à-dire l'atteinte à l'innocence, qui est une des pires choses qui soit. Être innocent et être accusé à tort et être enfermé éventuellement, c'est une des pires choses qui soit. Bon, j'ai jamais entendu parler l'Institut pour la Justice de ces questions-là. Donc c'est pour ça que les accusés ont des droits, pour éviter que la puissance publique, l'État, le pouvoir, eh bien, se déchaîne contre eux, quand bien même ils n'auraient rien fait, ou s'ils ont fait quelque chose au-delà du raisonnable, au-delà de ce qui est acceptable dans une société démocratique. Bon, voilà pourquoi ils ont des droits. La victime, elle, bien sûr qu'elle a son mot à dire, qu'elle doit avoir une place, qu'elle doit avoir donc des droits pour qu'elle puisse s'exprimer et puis qu'elle puisse demander des choses. Bien sûr, la victime, elle, a un préjudice personnel, donc elle en demande réparation, il faut qu'elle puisse l'exprimer, faire entendre sa souffrance, bien sûr, mais ce n'est pas à elle de parler au nom de la collectivité. Je veux dire, moralement, tout le monde est du côté de la victime. Donc c'est pas un problème de morale. Les gens qui promeuvent ce type d'idée n'ont rien compris à ce que c'est que le droit. C'est pas de la morale, le droit. Le droit, c'est éviter l'arbitraire. C'est de la politique. C'est de dire, évitons que des gens soient écrasés à tort. Bon, donc c'est pour ça qu'on leur donne des droits. C'est pas parce qu'on les adore, c'est pas parce qu'on trouve que ce qu'ils ont fait est formidable. C'est insupportable, cette espèce de réduction à l'absurde du débat judiciaire. Bon, voilà, c'est-à-dire que la souffrance justifierait tout. Plus je souffre, plus j'ai de droits, alors. Bon, c'est évidemment complètement débile. Cette idée que les victimes devraient avoir les mêmes droits que les accusés, je suis désolé, non.
Extrait de la lettre que Julos Bocarne écrivit dans la nuit du 2 au 3 février 1975, après la mort de sa femme assassinée par un homme devenu fou. Ami bien-aimé, ma loulou est partie pour le pays de l'envers du décor. Un homme lui a donné 9 coups de poignard dans sa peau douce. C'est la société qui est malade. Il nous faut la remettre d'aplomb et d'équerre par l'amour et l'amitié et la persuasion. Sans vous commander, je vous demande d'aimer plus que jamais ceux qui vous sont proches. Le monde est une triste boutique. Les cœurs purs doivent se mettre ensemble pour l'embellir. Il faut reboiser l'âme humaine. Je suis maintenant très loin au fond du panier des tristesses. On doit manger chacun, dit-on, un sac de charbon pour aller en paradis. Ah, comme j'aimerais qu'il y ait un paradis. Comme ce serait doux les retrouvailles. En attendant, à vous autres, mes amis de l'ici-bas, face à ce qui m'arrive, je prends la liberté, moi qui ne suis qu'un histrion, qu'un batteur de planches, qu'un comédien qui fait du rêve avec du vent, je prends la liberté de vous écrire pour vous dire ce à quoi je pense aujourd'hui. Je pense de toutes mes forces qu'il faut s'aimer à tort et à travers. Je pense de toutes mes forces qu'il faut s'aimer à tort et à travers.
Deuxième idée forte, l'application effective des peines prononcées.
Xavier Bébin.
Aujourd'hui, il y a deux problèmes fondamentaux.
Délégué général de l'association Institut pour la Justice.
Il y a 80 000 peines qui sont inexécutées, qui sont pas du tout exécutées, qui sont en attente d'être exécutées faute de place de prison. Donc il faut construire
des... Mais ça compte pas les sursis et tout ça?
Non, non, non. Donc il faut construire des places de prison pour exécuter ces peines. Et le deuxième problème, c'est que quand elles sont souvent exécutées à moitié, appliquées à moitié, parce qu'il y a toute une série de mesures de réduction de peine supplémentaire, libération conditionnelle, qui érodent trop la peine et qui créent un décalage trop important entre la peine qui est affichée et la peine qui est réellement appliquée. Nous demandons que, quand on est condamné à une peine, on en purge au moins les trois quarts avant de pouvoir bénéficier d'une libération. Eh bien, il faut avoir une réponse pénale ferme.
Voilà, plus de sévérité, plus de prison, plus de condamnation. On connaît cette chanson, elle n'est pas seulement dans la bouche de ce monsieur qui dirige ce lobby, l'Institut pour la Justice, mais elle est aussi dans pas mal d'esprits dans un pays comme le nôtre, et pas seulement comme le nôtre. Il y a de très nombreuses associations pour les victimes, à partir des victimes aux États-Unis. Qui procèdent du même sens du talion, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent. Pas étonnant dans un pays comme les États-Unis où cet esprit de la revanche, enfin de la vengeance d'ailleurs, est encore très présent dans une partie de la population, des États. On est dans une autre culture ici en France, mais cet institut, lui, pense qu'il faut de la sécurité et de la répression. On revient à Mathieu Bonduel, donc président du syndicat de la magistrature.
L'aménagement de peine, qui est l'ennemi juré de l'Institut pour la Justice, par exemple la libération conditionnelle, si rare aujourd'hui, l'aménagement de peine, c'est le meilleur moyen de lutter contre la récidive. Alors c'est dur à entendre quand en fait on fait de la morale.
C'est-à-dire ce que j'allais vous dire, c'est que c'est du pain béni ce que vous dites là pour ceux qui parlent au nom des familles de victimes. Et regardez, leur enfant a été assassiné et vous proposez de le faire sortir de prison plus tôt que prévu.
Oui, mais faire sortir quelqu'un de prison plus tôt que prévu, mais dans de meilleures conditions, qui augmente la probabilité qu'il ne récidive pas, c'est rendre service à la victime. Ce n'est pas, en revanche, lui rendre service de dire, au nom d'une espèce de morale répressive primaire de base, j'ai pris tant, je fais tant, et c'est comme ça, et c'est non négociable, parce que nous, on est comme ça, on est ferme, de conduire à des sorties sèches. Des détenus qui retournent dans la société sans rien et qui sont beaucoup plus susceptibles de récidiver. Est-ce que c'est vraiment rendre service aux gens et aux victimes que de tenir ce discours? Je pense que non. Donc je pense qu'on escroque véritablement les victimes. Il y a une véritable escroquerie politique et morale qui est au cœur de ce discours-là. Au nom des victimes, on promeut des dispositifs qui sont contraires aux intérêts des victimes. Mais c'est pire que ça. C'est qu'en fait, les victimes, c'est le cadet des soucis de ces gens-là. Ce qui les intéresse, c'est de plaquer sur la société une certaine vision des choses qui est empreinte d'un moralisme rance et qui consiste à considérer que eh bien les gens sont méchants et donc comme ils sont méchants, eh bien il faut les faire expier. Voilà. C'est ça le fond du discours de cet Institut pour la Justice. Donc la prison devrait retrouver sa place dans cette société, qui devrait être une place beaucoup plus marginale qu'elle ne l'est aujourd'hui. Pourquoi notre destin collectif, ce serait de construire toujours plus de places de prison plutôt que d'imaginer des solutions beaucoup plus efficaces pour lutter contre la délinquance?
Peut-être que t'es déjà venu en prison ou pas?
Ouais, mais pas ici, pas à Bois d'Arcy.
Là-bas, si j'y suis, novembre 2003.
Après, on fait des connaissances et après on ressort, on n'a plus envie de travailler. Et voilà, quoi, c'est le cercle vicieux. Fait qu'après, vous sortez d'ici, vous avez la rage. Le seul truc que vous faites, personne ne veut vous tirer du cercle vicieux, vous restez dedans. Et vous avez encore plus la mort. Vous ressortez et rebelote, quoi. Ouais. C'est ça, la prison, c'est une sorte d'école. C'est l'école du vice. Là, les mineurs, là, que vous voyez tous ici, là. Mais sur tous ces détenus-là, il y en aura peut-être un ou deux quoi qui va jamais revenir. Sinon, tout le reste, soit ils se feront jamais prendre, soit ils reviendront ici pour des affaires criminelles ou un truc de ouf. Là.
Et troisième grand point, c'est l'idée de fermeté de précaution vis-à-vis des criminels dangereux.
Xavier Bébin.
Avec des mesures de surveillance, de suivi des délinquants sexuels dangereux.
Association Institut pour la Justice.
Et pour les criminels qui ont fait la preuve de leur dangerosité, qui ont commis des viols ou des meurtres en série, une vraie perpétuité, parce que il y a des individus, ils sont pas très nombreux, mais pour lesquels toute remise en liberté est une mise en danger de la société. Et pour cela, on ne peut pas l'accepter, c'est pour ça qu'il faut des mesures de précaution contre la dangerosité.
Comment on les identifie ceux-là? Par rapport à ceux qui peuvent s'amender, par exemple? Parce qu'il y a toujours l'espoir de la réinsertion, ou toujours l'espoir de celui qui, face à l'implacabilité de la justice et du droit, revient sur ses fautes.
Il y a des individus pour lesquels tout le parcours judiciaire, tout le parcours criminel montre que donner une nouvelle chance, une énième chance à l'individu, c'est plus de l'humanisme, c'est de la mise en danger d'autrui. Quand vous avez Guy Georges qui a été condamné X fois avant même de commencer sa carrière de 7 meurtres, qui a fait 7 meurtres, de 7 viols suivis de meurtres, il y a des individus comme ceux-là pour lequel donner une nouvelle chance, encore une fois, c'est plus de l'humanisme. L'humanisme, c'est d'avoir une compassion équilibrée vis-à-vis des victimes potentielles aussi, vis-à-vis de l'individu qui a commis ce qu'il a commis, mais vis-à-vis des victimes potentielles, et risquer de nouvelles victimes potentielles en remettant en liberté quelqu'un qui a fait la preuve répétée de son incapacité à se contrôler, eh bien, c'est irresponsable. Et donc, c'est pour ça qu'il y a quelques individus, ils sont pas nombreux, pour lesquels il faut avoir une fermeté de précaution.
C'est le jeu. C'est ça, quand on joue, on connaît les règles.
Là-bas, si j'y suis.
Et qu'est-ce que tu penses à l'idée qu'ils vont faire encore plus de prison?
Novembre 2003.
Pour les plus jeunes.
De toute façon, là, parti comme c'est parti. Hein. Suivez juste comment ça se passe aux States, aux États-Unis. Là. Ça va se passer la même. Ils font plus de prison. S'ils font plus de prison, c'est qu'ils s'attendent à qu'il y ait encore plus de délinquants. S'il y a encore plus de délinquants, c'est qu'il y aura encore plus de crimes et trucs comme ça. Et parti comme ils sont partis, là, Hagar, c'est-à-dire à piquer les gens. Et ils vont se faire brûler. Ils vont se faire brûler. Voilà, une bavure de bavure. Les gens, ils vont se tirer dessus, puis c'est tout, voilà. C'est pas pour des euros, des Superman, ils rabaissent les gens. Au bout d'un moment, les gens, ils se révoltent, hein. Voilà. Tandis qu'il n'y a pas de, ils cherchent pas de solution alternative. Seule solution qu'ils connaissent, c'est enfermer les gens. Mais enfermer les gens, la prison, ça forme les jeunes à être encore plus délinquants, à faire attention à pas se faire attraper pour la prochaine fois, c'est tout.
Alors Denis Salas, bonjour, je suis venu vous voir parce que vous êtes magistrat et universitaire. Je cite quelques-unes de vos étiquettes, à savoir ancien juge pour enfants, juge d'instruction, secrétaire général de l'Association française pour l'histoire de la justice, directeur des cahiers de la justice où je vous retrouve en ce moment, et chercheur à l'EHESS. Et je suis venu vous voir parce que, entre autres contributions, vous venez de sortir un livre qui s'appelle « La justice dévoyée » qui pointe du doigt les travers de ce courant de pensée que vous décrivez comme le populisme pénal et qui est, d'une certaine manière, incarné au mieux, illustré par l'Institut pour la justice et son pacte 2012.
Voilà, en effet, de Denis Salas qui vient de publier ce bouquin, et où il nous dit qu'on est à la recherche d'une société sans risque et nous sommes en guerre contre le crime. Les lois multiplient les infractions, allongent les peines, se veulent toujours plus dissuasives, mais où nous entraîne cette obsession sécuritaire qui est manifestée, mais qui est mise en œuvre dans le cadre des élections actuelles, mais bien au-delà, par l'Institut pour la justice. C'est vraiment un courant de pensée ancien et qui aujourd'hui connaît un dynamisme nouveau avec vraiment un courant de pensée de droite, radicale, d'extrême droite même, qui arrive derrière ce paravent d'un institut et d'une neutralité proclamée.
Alors, le troisième point de l'Institut, c'est la notion de principe de précaution applicable à la délinquance. Et là, je pense qu'on est aux frontières de l'humanité.
Parce que je coupe deux secondes, c'est-à-dire ce qu'ils appellent, eux, fermeté et précaution vis-à-vis des criminels dangereux, voilà. Ce qui mériterait une attention particulière afin qu'ils ne réitèrent pas.
C'est exactement ça, une volonté de faire reculer la criminalité, d'épargner de nouvelles victimes, en présentant le délinquant comme un individu nuisible, indésirable. Et là, je pense que en arrière-plan, il y a une vision du délinquant presque inhumaine. C'est le monstre, c'est le prédateur, celui qui nous menace. C'est, pour reprendre une expression qui avait été utilisée dans l'affaire Mera à Toulouse et Montauban, le loup solitaire. Donc il y a une animalisation de ce danger qui présente le délinquant comme celui par qui le mal arrive, parce que précisément il est incontrôlable par sa sauvagerie naturelle. Alors, le réflexe que l'on peut avoir, c'est de l'éliminer, éliminer le mal par le mal, donc appliquer un principe de précaution, de neutralisation sélective de ces criminels-là, qui, parce qu'ils sont essentiellement dangereux, doivent être mis hors de la société, hors d'état de nuire, pour nous en débarrasser. Non, il faut être ferme là-dessus. Les délinquants ne sont pas des animaux, ce sont des êtres humains qui ont commis des actes inacceptables, qu'il faut punir, et je crois, fermement. Mais en même temps, il y a un temps aussi pour la reconstruction qui doit et qui peut intervenir. Et c'est le grand danger des positions de l'Institut, de nous faire croire qu'il y a une peine dissuasive qui, parce qu'elle s'appliquera sur tous les délinquants, nous débarrassera définitivement du mal, alors que je crois que l'expérience des sociétés, l'expérience de la peine depuis qu'elle existe, montre qu'il y a effectivement ces deux temps qui existent et qui doivent effectivement se conjuguer pour permettre à la société d'intégrer en son sein ceux qui sont un temps tentés par la déviance, mais qui peuvent demain être réintégrés dans son processus de fonctionnement.
Un petit bout de ficelle autour de son cou, un petit bout de chiffon pour ne plus rien sentir du tout. C'est l'enfermement qui fait qu'à cet instant, prisonnier s'évade en passant par un nœud coulant. Un tout petit dérapage suffit pour se retrouver deux pieds dans une cage à mordre un morceau d'oreiller. Pour peu que madame la justice ait écouté monsieur l'état, maintenant on resserre les vis, je veux parler de célibat. La justice a toujours raison, c'est ce que se disent les procureurs avant d'avoir à jeter quelqu'un en prison. Chaque maison a sa pièce la plus sombre, comme chaque source de lumière apporte son ombre. C'est le pharmacien qui se pique, le petit curé qui s'astique, une pipe pour une promotion, tout ce qu'on cache tout au fond. Qu'en est-il de la grandeur d'une nation où droit, l'homme et dignité s'arrêtent aux portes des prisons? Qu'en est-il de ceux qui vivent à l'intérieur, ce qu'on fait passer pour des monstres en disant pas qu'il y en a qui plairent? La justice a toujours raison, c'est ce que se disaient ses parents avant de retrouver leur fils pendu en prison.
Il y a une série d'idées reçues, de préjugés, d'idées dominantes qui se sont répandues dans le monde judiciaire, qui sont fausses. Je vous donne quelques exemples.
Xavier Bébin.
L'idée que la prison, c'est l'école du crime.
Association Institut pour la Justice.
Aujourd'hui, toutes les études criminologiques dont nous disposons et tous les enseignements de l'histoire montrent que la prison est plutôt un frein à la criminalité plutôt qu'un accroissement. On cite souvent les États-Unis comme contre-exemple absolu.
Et de oui, parce qu'ils disent par exemple qu'il y a 8 fois plus de taux d'incarcération aux États-Unis qu'en France. Et en France, je crois que c'est autour de 90 pour 100 000 et aux États-Unis, on frôle les 800.
700, oui. On cite souvent les États-Unis comme contre-exemple. Alors bien sûr qu'il y a un excès très fort dans le nombre de détenus. Mais par contre, ça n'invalide pas la thèse de la prison comme moyen de protection des citoyens, puisque entre 1980 et aujourd'hui, il y a 3 à 4 fois plus de détenus et 2 fois moins de criminalité. C'est-à-dire que l'accroissement du nombre de détenus, dans la thèse de la prison école du crime, aura dû conduire à une explosion de la criminalité, puisqu'ils ont été multipliés par 3 fois plus de détenus aux États-Unis. Ce qu'on a constaté, c'est une division par 2 des violences, des atteintes aux biens, des atteintes aux personnes. Donc,
S'ils sortent pas, effectivement, oui.
Mais donc, cette idée sur laquelle la prison serait l'école du crime, que la prison cause la criminalité, que plus on est dur avec le crime, plus ça encourage la délinquance, est complètement fausse. Et qu'aujourd'hui, on est en fait, sans aller évidemment dans les excès du tour carcéral américain, il faut au moins rattraper la moyenne européenne de taux de détention. Et donc, on manque de prisons. On tolère une surpopulation carcérale depuis des années parce qu'on n'a pas eu le courage de construire les prisons qu'il fallait. Il faut mettre à niveau pour simplement revenir à la moyenne européenne. On sera à 120, 130, 150 détenus pour 100 000 habitants.
On comble le retard français, encore une fois.
Très très loin des 700 pour 100 000 Américains. C'est pas du tout l'exemple. Mais encore une fois, donc il y a des préjugés comme ça dans lesquels la prison c'est la pire des solutions, alors que dans un certain nombre de cas, c'est une solution indispensable pour mettre un frein à la criminalité.
Suite à la diffusion d'une vidéo accompagnée d'une pétition pour réformer la justice, l'association du Génépi Toulouse réagit.
Association Loi 1901, le Génépi regroupe 1200 étudiants à travers la France et a pour objet de décloisonner l'univers carcéral en favorisant la circulation des savoirs.
Nous sommes inquiets de l'ampleur que prend le pacte 2012 proposé par l'IPJ, Institut pour la Justice. Ce pacte nous paraît injuste, liberticide et contre l'état de droit.
Inquiets de constater que l'émotion l'emporte sur la raison, que les droits de l'homme sont bafoués par des propositions appuyées sur des faits divers, certes gravissimes mais également rarissimes. Les citoyens du Génépi Toulouse s'insurgent. L'IPJ, un institut par son nom, une association dans les faits, bref, un flirt avec l'imposture. 3 axes orientent leurs objectifs. Le premier, l'aide aux victimes, rien à dire, c'est louable. Le deuxième, la promotion d'une meilleure organisation judiciaire. Un projet audacieux, des procédés pourtant contestables. Profiter de la souffrance des uns, instrumentaliser l'émotion des autres, proposer une réforme intéressée, peut mieux faire. Le troisième, la défense des droits fondamentaux de la personne. Ils oublient ici que les accusés restent des citoyens ayant droit à la présomption d'innocence. Tous les hommes ne naissent-ils pas libres et égaux en droit? Alors, le Génépi Toulouse s'interroge sur les véritables intentions de l'IPJ. Humoriste, humaniste ou politique?
C'est là où on voit que l'Institut pour la Justice fait de l'idéologie et pas de la science. Parce que s'ils étaient dans une démarche scientifique, ils citeraient les études, et il y en a un certain nombre, qui démontrent que plus on va en prison, plus on y retourne. Ce qui prouve bien, je dirais, l'inefficacité de l'incarcération à prévenir la récidive. Je ne dis pas qu'il ne faut pas envoyer des gens en prison. Je dis que dire que c'est en les envoyant de plus en plus et de plus en plus longtemps qu'on va régler le problème, c'est faire fi aussi d'un certain nombre de choses que l'on sait et qui ont été étayées, et parfois même par des études financées par le ministère de la Justice actuel, qui pourtant n'est pas particulièrement laxiste, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, ces études démontrent que plus on va en prison, plus on y retourne, c'est-à-dire plus on commet de nouveaux actes qui nous reconduisent en prison. Et tout le monde peut le comprendre, ça, quand même. C'est que quand on est en prison, on se désocialise, au sens où on se coupe de la société des hommes libres, on se coupe de son travail si on en avait un, de sa famille, de son ancrage, et on se re-socialise dans un nouveau milieu qui s'appelle l'univers carcéral. Et dans cet univers, on sait bien que la loi n'est jamais aussi simple qu'elle le devrait, c'est-à-dire qu'on peut toujours la contourner, il y a des arrangements, des aménagements, de l'arbitraire, de l'administration, et puis il y a surtout la loi du plus fort,
qui prévaut entre les détenus. Et puis il y a des détenus qui sont très expérimentés et qui peuvent apprendre beaucoup de choses, et pas forcément celles qu'on attendrait qu'ils leur apprennent.
Pas forcément la réinsertion, vous voulez dire ?
Mais non, l'administration pénitentiaire aujourd'hui assure essentiellement une seule de ces deux missions historiques. Normalement, l'administration pénitentiaire assure la garde et la réinsertion. Et tout le monde sait, c'est un secret de polichinelle, que l'administration pénitentiaire se focalise aujourd'hui sur la garde, sur des missions de contention des gens. C'est-à-dire qu'on garde les gens enfermés, parfois très longtemps, avec un temps mort. Il ne se passe quasiment rien pendant ce temps-là, à part des choses nocives, des gens qui développent des troubles psychiatriques ou psychologiques, des solidarités délinquantes, je ne sais, qui se créent quoi dans l'univers pénitentiaire, et une cassure avec l'extérieur qui fait que quand les gens sortent, effectivement, eh bien, ils sont dans des conditions qui, objectivement, augmentent leur probabilité de passer à l'acte. Si bien que, du point de vue même des objectifs qu'ils prétendent poursuivre, les militants de l'Institut pour la Justice font fausse route. Mais ils le savent très bien, font fausse route, puisqu'en réalité, ils fabriquent de la récidive.
Demain, la suite, merci à tous. La victime, l'émotion et la règle, un reportage de Guy Vanquille. Merci à Mathieu Bonduel, Xavier Bébin et Denis Salas. Toutes les informations sont sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission également sur là-bas.org, là-bas.org. Et puis on peut se retrouver aussi sur notre page Facebook. Michel Bézikian et Pauline Laverdure étaient à la technique aujourd'hui. Bertrand Chometon et Franck Adhéraire ont réalisé cette émission assistée de Marina Touillez et Grigory Salomonovitch. Attends vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37.
Non mais tu le crois ça ? Hier 23h, retour de week-end, en panne au milieu de nulle part.
Attends, ne me dis rien. La dépanneuse te dépose sur le parking du garage le plus miteux du patelin, forcément fermé. Bref, t'es piéton et ça va te coûter un peu.
À la GMF, les idées reçues, nous, on les plaque. En cas de panne, non seulement nous vous venons en aide, mais en plus, nous pouvons prendre en charge et payer les réparations. C'est ça, une bonne assurance.
GMF, assurément humain.
Voir conditions et détails des prestations en agence ou sur gmf.fr.
France Inter, partenaire de l'exposition Les Maîtres du Désordre au musée du Quai Branly jusqu'au 29 juillet. Chamans, sorciers ou artistes d'avant-garde, les Maîtres du Désordre sont les intermédiaires entre les forces du chaos et le monde des hommes. Plongés dans leur univers fascinant, entre voyages cosmiques et fêtes transgressives. L'exposition met en scène près de 350 œuvres issues des grandes collections anthropologiques, mais aussi des œuvres modernes et des installations d'artistes contemporains. À retrouver dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
16h et quelques secondes sur Inter. On se retrouve demain à 15h pour la basse. J'y suis, les infos. Delphine Simon, salut.
Polémique sur les célébrations du 1er mai, plainte contre le site en ligne Mediapart. La campagne présidentielle se tend un peu plus à 2 jours du débat télévisé entre les 2 finalistes. En attendant, Nicolas Sarkozy est cet après-midi dans les Bouches-du-Rhône, à Château-Renard et à Avignon. Rien à l'agenda de François Hollande qui prépare le débat télé de mercredi. Le candidat du PS qui critique le thème de la frontière mis en avant par son adversaire hier. Ce n'est selon lui pas le sujet principal de l'élection. Un militant écologiste grenoblois dénonce des irrégularités et l'ivresse sondagière de l'Élysée. Raymond Avrier est connu pour avoir provoqué la chute de l'ancien maire de Grenoble, Alain Carignon, et il s'est procuré sur injonction de justice des documents concernant les sondages commandés par l'Élysée entre 2007 et 2009, 264 au total pour un montant de 6 350 000 euros. Certains de ces sondages ont été, selon lui, clairement utilisés par l'UMP en vue de l'élection présidentielle de 2012. Un ancien employé du nucléaire assigne EDF pour préjudice d'anxiété. Cet homme de 52 ans a travaillé entre 1986 et 1989 pour une société sous-traitante d'EDF à la centrale de Gravelines dans le Nord et il se plaint de cauchemars et d'angoisse. Il affirme avoir reçu des doses de radioactivité dangereuses selon les nouvelles normes européennes applicables aujourd'hui. Le préjudice d'anxiété a déjà été reconnu pour certains travailleurs de l'amiante. Le tribunal des référés de Paris devrait statuer sur la première étape de la procédure le 4 juin prochain. Paris demande au FARC de Colombie de libérer immédiatement le journaliste français Roméo Langlois. Nous tenons les FARC pour responsables de sa situation, annonce un porte-parole du Quai d'Orsay cet après-midi. Il n'y a aucune certitude, mais le reporter de France 24 a vraisemblablement été enlevé par un groupe rebelle, affirmé ce matin Alain Juppé. Fin février, les FARC se sont pourtant engagés publiquement à renoncer aux enlèvements de civils. L'Union européenne invite la Chine à la plus grande retenue concernant le dissident chinois Chen Guangcheng et sa famille. Chen, qui est aveugle, s'est fait connaître comme avocat en luttant contre les campagnes d'avortement forcé dans le cadre de la politique de l'enfant unique. Il y a quelques jours, il a réussi à échapper à la surveillance des autorités chinoises pour se réfugier à l'ambassade des États-Unis à Pékin. Enfin, en Syrie, nouvelle explosion cet après-midi dans la ville d'Idlib à la frontière turque. Ce matin, déjà deux bombes auraient fait une vingtaine de morts parmi les forces de sécurité syriennes.
Dimanche, élection présidentielle, deuxième tour. La rédaction de France Inter se mobilise et vous propose une soirée spéciale.
Retrouvez-nous dès 18h30 pour le second tour de l'élection présidentielle.
Hélène Jouan.
Participation, campagne de l'entre-deux-tours.
Frédéric Barrère.
Jean-François Killy fait le point avec ses éditorialistes.
20h, un nom, un homme, un président, pour faire quoi et avec qui?
Directs et reportages, réactions à l'étranger, analyses et commentaires avec nos politologues et Patrick Jarreau du journal Le Monde.
Et des débats avec nos invités, quelles alliances pour quelle majorité pour ce nouveau quinquennat.
Élection présidentielle, deuxième tour.
Une soirée spéciale en partenariat avec France 2, Le Monde et Le Point, avec Ipsos Logica Business Consulting.
À suivre sur France Inter, dimanche, à partir de 18h30.
Et suivez-nous aussi toute la journée sur franceinter.fr.
À dimanche.
France Inter. La différence.
En attendant, 16h04 sur France Inter, c'est l'heure du carrefour de l'Odéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Delphine Simon. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, nous allons évoquer aujourd'hui Jules Massenet, évidemment pas tout Massenet, mais enfin quand même une petite partie de son œuvre, ses caractéristiques. Il nous a quitté en 1912, donc c'est son anniversaire cette année aussi. Et en plus, Massenet est un auteur qui nous touche par certains opéras, Manon, Werther, qui sont finalement très connus parmi tous les opéras joués dans le monde. Pour commencer, réédition, c'est l'infatigable Nicolas Arnoncourt qui est en vedette, et il nous propose des enregistrements de musique ancienne, par exemple de Bieber, Heinrich Ignaz von Bieber, Franz même, on peut rajouter, il y a trois prénoms, je suppose que de son temps, on ne servait pas des trois à la fois, né en 1644, considéré comme autrichien, né en Bohême, qui a vécu à la cour de Léopold Ier, et il a écrit un recueil qui s'appelle Mensa Sonora, ça veut dire table sonore, il ne faut pas aller chercher trop loin, c'est de la musique pour accompagner évidemment les bons repas, mais Bieber le dit lui-même, sa Mensa Sonora, écrite à quatre voix, ne présente pas de mets extravagants, donc il considère c'est assez simple, et ça visait sans doute à accompagner les repas quotidiens et divertissements de son mécène Maximilien, qui aimait tout autant la musique que la bonne table. Voici une gaillarde de Bieber. Une gaillarde tirée de la Mensa Sonora, donc la table sonore de Bieber, Heinrich Ignaz Franz von Bieber, 1644-1704, interprétée par le Concertus Musicus de Vienne, dirigé par Nicolas Harnoncourt, son fondateur, mais qui, depuis ce temps-là, depuis ce disque qui a été enregistré autour de 64 à peu près, eh bien, parce qu'on a la date de production, la date d'édition, et pas forcément tout à fait l'enregistrement, mais enfin, dans ces eaux-là, ça fait loin. Et ben, Harnoncourt, évidemment, dirige encore aujourd'hui cet ensemble qu'il prête de temps en temps à d'autres. Voici maintenant Fuchs, Johann Joseph Fuchs, alors théoricien et compositeur aussi, bien sûr, qui a voyagé en Europe pour ses études. Il était aussi autrichien, il était organiste à Vienne, par exemple, à la cour impériale, et puis il a fait des études très profondes dans le contrepoint, dans la science du contrepoint, et bon, il a été très estimé, et de son vivant, aussi bien qu'aujourd'hui. Il a laissé d'ailleurs un traité de composition fameux, Gradus ad Parnassum, dont le titre a été repris par Debussy plus tard, c'est-à-dire, au fond, on peut dire marche par marche, le fait de grimper jusqu'au Parnasse. Le Parnasse, c'est le paradis des musiciens, bien sûr, tout comme celui des dieux autrefois, supposé. Mais voici les premiers mouvements d'une symphonia de Johann Joseph Fuchs, toujours par Nicolaus Harnoncourt.